Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 février 2001 à Saint-Jodard.
Deux petites questions. Vous nous avez dit qu'en éthique chrétienne, on part de la constatation que Jésus est un homme parfait. Mais sans la foi, cela semble être scandale et folie. Dire que Jésus est parfaitement humain, et parfaitement humain et surhumain, n'est-ce pas alors dans un regard de foi? Je crois que, honnêtement, pour celui qui veut regarder sans préjugé. S'il a un préjugé, alors c'est différent. Mais sans préjugé, on peut reconnaître que Jésus est un sur-Socrate. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme intègre qui cherche la vérité et qui, face aux pharisiens, n'hésite pas de dire la vérité. Face à Nicodème, c'était l'occasion de réussir. Prendre Nicodème avec soi. Et il ne prend pas. L'amour des pauvres. Et que Jésus termine sa vie sur la croix, celui qui comprend ce que c'est que la vérité et qui comprend ce qu'est le mensonge des hommes et les jalousies des hommes, comprendra que c'est un homme qui a suscité des jalousies terribles de la part des pharisiens, de la part des prêtres et du grand prêtre. De sorte que un homme parfait, ça dépend ce qu'on comprend. Si on comprend la perfection comme étant ce qui est uniquement humain, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Je crois que Jésus a vécu ça. Et que dans un regard humain, philosophique, donc philosophique, Jésus est éminemment sage. Un Socrate, éducateur, qui montre une finalité humaine et surhumaine. Alors c'est évident, il fait craquer notre petit concept de perfection, qui est toujours un peu pharisaïque. Mais si on regarde le Christ comme homme, on reconnaît que c'est un homme d'une dimension qui fait réfléchir, parce que ça fait sauter la petite dimension pharisaïque que nous avons de l'homme. Alors, c'est plus surhomme, c'est évident, mais c'est homme. Je crois qu'on ne peut rien trouver dans le Christ qui ne soit pas humain. Donc, je crois qu'on ne peut pas trouver dans le Christ une faute contre la justice. Et que tout ce qu'on peut découvrir dans le Christ est non seulement humain et surhumain, c'est sûr, mais en même temps humain dans le sens éminent de l'homme, contemplatif et sagesse. C'est un sage. Mais et un sage est humain. Mais évidemment, pas selon le suffrage universel. Parce que c'était pas commode de vivre à côté du Christ. Hein. L'évangile d'aujourd'hui le montre. Pierre, qui était très sûr de lui, hein, était plus vieux que Jésus. Pierre, il dit, tais-toi, dis pas ça. Même. On voit très bien Pierre scandalisé. Jésus avait, quoi. C'est vrai d'annoncer ça. C'est d'être réaliste. C'est comme ça que l'humanité traite ses saints. Et suffrage universel. Et on le met au niveau de l'esclave, d'un fou. Le jugement des grands prêtres, du Sanhédrin, sur Jésus, est complètement faux. Alors, c'est facile de condamner quelqu'un. Et aujourd'hui, encore plus facile. Mais déjà du temps de Jésus. Alors, c'est vrai que Jésus a pu scandaliser certaines personnes parce qu'il voulait les déloger de leur pharisaïsme. Il en a envoyé de belles par aux pharisiens. Et à Pierre, c'est quand même rude pour Pierre. Mais l'évangile d'aujourd'hui, il est magnifique. Le Messie, très bien. Ah, mais le Messie, glorieux. Pour Pierre, non, pas du tout. Le Messie qui sauve par une miséricorde radicale. Il prend la place du pécheur. Être anathème pour ses frères. Est-ce que c'est pas humain, ça ? Le père Kolb qui prend la place du père de famille. C'est surhumain, mais c'est humain. Le surhumain chrétien est humain, est parfaitement humain. Mais ramener l'homme à une dimension de prudence humaine sans cet aspect de foulecan, de dépassement, c'est ramener l'homme à une dimension qui n'est pas entièrement humaine. L'humain, c'est le primat du spirituel sur le sensible. C'est le humain, c'est le primat de l'amour sur tout orgueil, ambition. C'est ça l'humain. Mais une philosophie saine, éthique, saine, doit montrer qu'il y a dans l'homme cette possibilité de dépassement. Un acte héroïque est humain, et il est héroïque. Alors, il est surhumain, mais il est humain. Le surhumain n'enlève pas la qualité d'être humain. Si on considère que le surhumain n'est plus humain, ça fait qu'on a une conception bourgeoise de l'homme. Et la dimension contemplative n'est plus humaine. Alors qu'un homme est celui qui cherche la vérité. Et qui cherche la vérité dans tous les domaines. Que Jésus nous secoue dans notre conception de l'homme, c'est sûr. Mais celui qui cherche ce qu'est l'homme doit pouvoir admettre Jésus. Et ce serait intéressant de discuter là-dessus. Hein. Parce que c'est très juste la réaction. Cette réaction, elle est constante. Mais ça, c'est le monde. Et le monde considère Jésus comme un fou. Le monde nous considère comme fou. Parce que on veut donner à l'homme toute sa grandeur, toute sa dimension. La gratuité de l'amour, c'est humain. Mais, or, la plupart du temps, on considère ça comme la folie. La recherche de la vérité, au-dessus de tout, c'est humain. C'est humain et surhumain dans un monde comme celui-ci. Parce que la plupart des hommes ne cherchent pas la vérité. Mais le suffrage universel ne nous donne pas la conception de l'humain. Il faut accepter que, comme dit Aristote, « ut in pluribus, manent in sensu ». Et saint Thomas a repris la formule en la trouvant très juste. « Ut in pluribus », la plupart du temps. « Ut in pluribus », c'est très joli comme expression. C'est la condamnation du suffrage universel. Hein. La plupart du temps, les hommes demeurent dans le sensible. Alors, si on demeure dans le sensible, le Christ n'est plus humain. Mais si on comprend que d'être humain, c'est regarder la vérité et découvrir la vérité absolue, c'est la sagesse. La sagesse est profondément humaine. Dans une éthique chrétienne, comment se fait l'union affective et l'union effective ? L'union affective, s'il s'agit une union affective sensible, une affectivité sensible et passionnelle. Celle-là est imaginaire. La passion se nourrit de l'imagination. Se nourrit de l'imagination. S'il s'agit de l'amour spirituel, affectif, spirituellement. Cet amour affectif est premier, il se suffit à lui-même. L'amour a sa finalité en elle-même, en lui-même. C'est ça qui est très étonnant. Et humainement parlant, c'est comme ça. Hein. Autrement, vous niez l'amour. Vous le relativisez. Donc, si l'amour spirituel est fin et se suffit à lui-même, la réalisation effective, l'union effective, sera une conséquence normale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'opposition. Si vous considérez que l'amour est à la source de toute efficience, si vous considérez qu'il n'y a rien de plus réaliste que l'amour, et rien de plus efficace que l'amour, alors il n'y a pas de problème. L'efficacité en est la conséquence. Le problème se pose quand je suis en face d'un amour passionnel. Parce qu'un amour passionnel n'est pas fin. Un amour passionnel doit pouvoir augmenter mon efficacité et ne pas l'arrêter. Et cet amour passionnel demande d'être considéré comme un moyen d'aboutir à un amour spirituel. Si je considère cet amour passionnel comme ma fin, je suis dans l'erreur. Alors, l'efficacité pourra m'aider à me remettre dans la vérité. En ce sens que la réalité quotidienne est là pour corriger la passion. Continuons d'essayer de comprendre comment les béatitudes évangéliques sont vraiment le point de vue spirituel, la structure spirituelle d'une éthique chrétienne. Cette éthique chrétienne commence par un amour spirituel de l'homme et comprend que lorsque la richesse devient fin, elle arrête tout. Il faut que l'homme accepte d'être pauvre, c'est-à-dire de ne plus avoir de droits qui le limitent. Quand nous faisons appel à nos droits, nous nous limitons. C'est très curieux. C'est cette parole très juste que le pape constamment nous a rappelé. L'homme n'est homme qu'en dépassant l'homme. L'homme est construit de telle manière que s'il veut rester uniquement humain, il se détruit. Il doit se dépasser. Donc le dépassement est humain. Oui. Ça vient jeter de l'eau au moulin. Le Christ est parfaitement humain, mais le dépasse. Il n'y a rien de plus humain que l'attitude du Christ sur la croix. C'est surhumain, mais c'est Il y a certains moments où on ne peut être vrai qu'en subissant la croix, si on veut être chrétien. Étant donné le côté mensonger de l'homme, étant donné le côté accaparement de l'homme, qui veut que tout le monde soit pris dans le filet qu'on veut. Alors, je ne reprends pas ce que je vous disais la dernière fois pour les béatitudes, voir comment les béatitudes développent en l'homme tout ce qui est capable d'être dépassé. Alors, ce serait très intéressant à faire, ça. Je ne le fais pas parce que c'est un petit peu en dehors de ce que nous faisons, mais c'est en même temps pleinement ce que nous faisons aussi. Prenez la béatitude des pauvres. Bon, à première vue, vous dites, mais non, un homme doit vivre de ses droits. Un homme offre ses droits à Dieu. La béatitude. La pauvreté, je ne la fais pas à côté de mon semblable. Hein. Je ne dis pas à côté de mon semblable. J'abdique pour toi tous mes droits. Ah, ça, vous n'avez pas le droit. On dira, votre amour est passionné. Il n'est plus humain. J'ai pas le droit, pour un être humain, d'abdiquer tous mes droits et de vivre de la pauvreté. La pauvreté se vit par rapport à Dieu, se vit par rapport au Christ et se vit par rapport à la charité surnaturelle pour le prochain. C'est pas par rapport à l'humain. Ce serait un abus. Et chacune des béatitudes, c'est comme ça. C'est par rapport à Jésus. Donc c'est par rapport à Dieu. Chacune des béatitudes permet de comprendre que l'homme ouvre une porte vers un dépassement. Et ce dépassement, il le fait en face de Dieu. Vous voyez, il y a toute une attitude religieuse qui est impliquée, qui est le fondement même des béatitudes. Et l'attitude religieuse reste humaine. La laïcité qui refuse le religieux est une laïcité criminelle. Parce qu'elle tue dans l'homme ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est de reconnaître Dieu. Et ça, c'est humain. C'est ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. C'est l'attitude religieuse. Donc, supprimer cette attitude religieuse, c'est le plus grand crime qu'on peut faire à l'homme. Vous voyez ? La laïcité française, constamment, va jusque-là. Vous voyez, c'est même la grande lutte avec l'Europe. L'Europe, grâce à Dieu, n'accepte pas cette laïcité. Alors peut-être qu'elle sera assez forte pour faire que la France, pour entrer dans l'Europe, soit obligé de supprimer cette erreur. Mais c'est très très important de faire ça. De bien comprendre. Il faut que nous-mêmes, nous en ayons la conviction intérieure. Et ne dites pas, c'est le père Philippe qui dit ça. Non. C'est la vérité la plus profonde. L'attitude religieuse est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Reconnaître l'existence de Dieu et du vin. Vous voyez, c'est l'encyclique du pape. La preuve de l'existence de Dieu et la découverte de l'existence de Dieu est humaine. Et donc, le fondement de toutes les béatitudes au point de vue humain, c'est toujours une attitude religieuse. C'est l'homme qui, par le point de vue religieux, est en puissance obédientielle vis-à-vis de Dieu. Et si Dieu vient l'exalter, l'agrandir par la grâce, ça ne détruit rien. L'humain en nous, au contraire. Ça permet à l'humain de s'épanouir. Alors, en face de Dieu, reconnaître que tous nos droits lui sont remis, lui sont offerts, c'est tout simplement reconnaître que la créature n'ont rien de plus grand que d'être unis à Dieu. Je sais, ça peut paraître clérical de dire ça, c'est humain. Sûrement qu'un parlementaire dirait ça, on crierait au cléricalisme. En France. Ça, sûrement. C'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas chercher la vérité. Heureux les doux, voyez, la douceur par rapport au voisin, c'est ouvrir notre cœur au prochain. Bienheureux les doux, c'est reconnaître que tout homme est capable de me faire comprendre quelque chose que je n'ai pas. Et ça, c'est profondément vrai. Tant que je n'arrive pas à reconnaître ça, je ne suis pas un homme. Par l'orgueil, je me considère plus. Bienheureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont dans le deuil, ceux qui acceptent d'avoir perdu un homme cher, un être humain cher. C'est Dieu qui me console. Parce que cet être cher qui est parti avant moi, ça a été la volonté de Dieu sur lui. Et cette volonté de Dieu sur lui, je l'accepte parce qu'elle vient de Dieu. Et donc, Dieu me console. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est justement de vouloir qu'entre tous les hommes, il y ait une justice plus profonde. Et pour moi, avec eux, bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde, le dépassement de la justice par la miséricorde, parce qu'il y aura toujours en moi les conséquences du péché, il y aura toujours en moi certaines blessures. Si je les reconnais et je les présente à Dieu, je serai consolé. Si je les reconnais, Dieu pourra me justifier. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu, c'est la contemplation, le dépassement. Heureux ceux qui font œuvre de paix, qu'ils seront appelés fils de Dieu. La chose la plus grande, c'est justement permettre cette coopération dans la recherche de la vérité. C'est ça qui est le fondement de la véritable paix. Tant qu'il n'y a pas cela, il ne peut pas y avoir de paix. La paix, c'est la concorde entre les hommes. Et cette concorde se fait parce que chez mon voisin, chez mon prochain, il y a la même recherche de vérité chez moi. Et cette béatitude de ceux qui cherchent la paix est l'habitude dernière. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors c'est aussi cette béatitude qu'il faut comprendre dans la lutte. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, quelqu'un qui nie la lutte, et qui veut un consensus. La paix n'est plus la recherche de la vérité, mais c'est l'équilibre de l'opinion des hommes. L'équilibre de l'opinion des hommes, c'est essayer de trouver une paix sans Dieu, sans vérité. C'est donc diminuer le calibre humain. Alors, c'est inhumain. On doit chercher toujours que le bien de l'homme est au-delà de l'homme. Le bien de l'homme n'est pas dans l'homme. Vous voyez, chercher le consensus. Aplanir, c'est chercher un bien commun, donc dans l'homme. Eh bien, il n'y a pas de bien commun dans l'homme. Il faut le dépassement dans la recherche de la vérité pour qu'il puisse y avoir une véritable paix. C'est toujours cette même parole. Hein. L'homme n'est parfaitement homme qu'en se dépassant. C'est vrai. Il n'y a pas dans l'immanence de ce que je suis la possibilité d'être parfaitement homme pour moi et pour les autres. Donc il faut accepter le but. Il faut accepter d'être persécuté à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira mensongèrement, et on se sert du mensonge, mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre salaire est grand dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Jésus rappelle que la béatitude de l'homme ne peut se faire qu'en acceptant la lutte, qu'en acceptant qu'il y ait des hommes qui ne vous comprennent pas et qui vous considèrent comme injustes, qu'il y ait des hommes qui lutteront contre vous. Vous ne cherchez pas en premier lieu que tout le monde ait une bonne opinion de vous. Ça, c'est une perte de temps. On doit chercher que le Père, que Dieu, ait une bonne opinion de nous. Parce que nous ne voulons que faire sa volonté. Donc, voyez, celui qui pacifique, c'est celui qui cherche à accomplir la volonté du Père et qui désire que tout le monde recherche cette volonté du Père à accomplir. Entre nous, la béatitude des pacifiques, c'est cela. Ce n'est pas de chercher que tout le monde ait le même, les mêmes opinions sur toute chose, non. C'est que tout le monde cherche ce dépassement.